16h19 dans le Point de Max à Boulevard. 88-971-1021 si il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Et même chose, si vous avez des questions pour notre prochain invité, il s'appelle Michael Grenier. C'est un pilote automobile et je le reçois aujourd'hui parce que dans les prochaines heures aura lieu le dernier Grand Prix de la saison 2025 de Formule 1. Michael, salut!
Bon matin, ça va bien?
Yes, ça va bien, toi?
Yes, super.
Premièrement, puis tu sais, on va parler du Grand Prix de Formule 1 tantôt. Je sais qu'il y a une couple d'auditeurs que ça intéresse bien gros. Fut un temps où ça m'intéressait. Là. Moi, je suis bien intense des fois dans certaines affaires où là, pendant plusieurs semaines, je pars, puis ça arrête pas, puis je suis bien à fond. Fait que ça m'était arrivé, je pense, il y a 2 ans que je suivais bien gros la F1. Puis depuis ce temps-là, ça a duré une couple de semaines, puis j'ai arrêté. Mais comme je disais, je sais qu'il y a des auditeurs qui s'intéressent à ça. Mais Michael Grenier, si en gros, tu nous faisais un résumé de ta carrière là, pour que les gens te placent un petit peu.
Si ça remonte à loin déjà. En fait, bah, comme certaines personnes aussi, j'ai commencé en karting vraiment jeune. C'était vraiment pour le plaisir avec mon père. Puis c'est vite devenu une passion, un objectif de carrière. Là, évidemment, au Québec, c'est assez difficile de percer en course automobile parce qu'il y a pas, c'est pas comme le hockey, là, il n'y a pas vraiment un chemin à suivre. Il faut y aller avec nos feelings, avec les contacts qu'on a, puis essayer de faire notre place. Il faut aller courir un peu à l'extérieur. Là. Donc, quand j'étais plus jeune, j'étais allé aux États-Unis assez tôt pour essayer de faire ma place là-bas. Là. Mais je commençais en karting, j'ai fait des séries de monoplace junior pour essayer de faire du Indy ou de la F1, mais le problème, c'est le financement pour se rendre dans ces séries-là, c'est assez compliqué. Puis maintenant, je suis rendu pilote d'endurance avec Mercedes. On fait des courses en fait partout dans le monde. Là. C'est des courses de. Pour ceux qui connaissent un peu les courses d'endurance, comme le 24 heures du Mans, qui a lieu en France. Puis,
c'est ça, c'est pas. Il y a plusieurs types de courses ouais. automobiles, mais le type d'endurance, je lisais un peu là-dessus ce matin, puis c'est très particulier. Là. C'est pas la même game pantoute qu'une course de F1. Là.
Non, ben, c'est très différent. Une course de F1, c'est environ 1h30. Donc, c'est des courses évidemment beaucoup plus courtes à un ou deux arrêts, puis c'est un pilote par voiture. C'est sûr que nous, dans une course de 24 heures, on est 3 à s'alterner. Là, on ne pourrait pas faire ça seul. Donc, on fait des relais d'environ 2 heures chaque ou 3 heures des fois d'un coup. Puis, c'est des courses différentes, mais très passionnantes aussi. C'est une ambiance différente au circuit aussi, puisque les gens sont là durant 24 heures. Évidemment, il y a des festivals de musique autour de la course. Il y a plein de choses. Ça fait que c'est des très belles courses.
Des coureurs automobiles comme toi au Québec, il y en a combien? Tu sais, qui ont réussi à percer là-dedans puis avec toutes les difficultés que ça a au Québec. Là.
Il y en avait un petit peu plus dans le passé parce qu'il y avait la filière Players, les cigarettes Players qui finançaient okay. les jeunes. Donc Jacques Villeneuve est passé par là, Alexandre Tagliani, Patrick Carpentier. Ils sont tous passés par la filière Players. Puis depuis que les cigarettes sont plus autorisées à faire de publicité, donc de commandite, c'est comme un peu mort. Là. Il n'y a pas d'autres programmes ici.
Ah ouais.
Il y a certains autres pilotes qui ont réussi. Là. Présentement, au niveau professionnel, on est peut-être 2-3. Sinon, il y a des séries plus locales ici, là, mais c'est assez difficile de percer l'international.
Puis, qu'est-ce qui explique que toi, tu es réussi? Puis là, j'imagine que tu vas être super humble puis parler de circonstances, tout ça, mais comment tu t'y es pris pour en arriver à réussir à avoir le financement puis tout ça?
Ça a été difficile, mais j'ai eu quand même beaucoup de commanditaires à Québec qui m'ont suivi durant longtemps. Mon père était dans l'automobile aussi, fait qu'on avait beaucoup de fournisseurs. J'ai des commanditaires qui sont avec moi depuis une dizaine d'années, comme Solaris à Québec, Solaris Porte et Fenêtre, et Dernier qui m'ont suivi durant longtemps, Canac aussi. Donc, ça a été de trouver du financement. On a fait des tournois de golf pour trouver des fonds aussi. Évidemment, maintenant, c'est un peu différent parce que les frais sont couverts par les équipes de course puis par Mercedes, mais ça a été assez compliqué. Je pense que ça a pris beaucoup de persévérance, un peu de chance aussi là-dedans parce qu'il faut être à bon endroit au bon moment. Puis, à force de travailler, ça a fini par fonctionner.
Ça ressemble à quoi une saison pour Michael Grenier? Tu sais, avec des courses de 24 heures, j'imagine que tu n'en as pas une par semaine? Là.
Non, c'est des 24 heures, c'est environ 3 par saison. Sinon, on a des courses, ça passe de 3 heures à 12 heures.
Okay.
On a beaucoup plus de 3 heures que de super longues courses dans l'année, là, pour plusieurs raisons. Mais puis l'année dernière qu'on vient de faire, c'était 27 courses dans l'année. Donc, c'est quand même 27 semaines sur la route. 27 week-ends de course, là, donc c'est assez épuisant, mais super le fun aussi en même temps.
Peux-tu souvent être à Québec ou à cause de l'entraînement et tout ça, faut-tu souvent que tu sois ailleurs ou quoi? Que j'imagine qu'à cette heure avec les simulateurs, ça te permet de pouvoir t'entraîner de Québec?
Oui, ben c'est un peu un des défauts de notre sport, c'est que s'entraîner, c'est assez sur la piste, c'est assez difficile. On a environ par année une quinzaine de jours d'essai, sinon sur les simulateurs, mais moi j'en fais pas nécessairement beaucoup. J'en ai un chez moi, mais c'est vraiment minimum ce que je fais. Je n'ai pas nécessairement beaucoup de plaisir à en faire. Mais oui, j'habite encore à Québec. J'ai comme la chance dans mon sport de pouvoir habiter un peu où que je veux, vu que les courses sont un peu partout dans le monde. peu importe, j'habite où, dans le sens où faut voyager. Là. Donc, j'habite encore à Québec.
Comment tu as vu la technologie évoluer au niveau de la course automobile là, dans les dernières années? Vois-tu une bonne différence? As-tu beaucoup d'adaptation pour les pilotes?
Nous, à notre niveau, ça commence. Il y a quand même beaucoup de changements. La F1 ont comme été les premiers à tomber vraiment sur la technologie hybride, puis avec beaucoup plus de systèmes électroniques sur la voiture. Évidemment, avec tout ce qu'on parle d'écologie, c'est quand même important. Mm-hmm. C'est en train un peu de revirer de bord, là, donc on ne sait pas trop dans quelle direction ça va, mais oui, il y a beaucoup de changements. Puis évidemment, la course automobile est un peu le moteur de développement pour l'automobile dans le monde en général. Là.
Parlons de F1 maintenant, plus concrètement. Dernière course de la saison en fin de semaine du côté d'Abu Dhabi. C'est dimanche à 8h que ça se passe. Puis là, de ce que je comprends, comme je t'ai dit, j'ai pas suivi ça de près, là, mais je checkais un peu le classement puis je vois des affaires passer de temps en temps. Ça peut encore se jouer. Là. C'est pas une saison où le premier depuis le début. Puis il y a des enjeux à la course de dimanche.
Ouais, mais la dernière année qu'on a vraiment eu une finale... serré, c'est en 2021, Verstappen qui se battait avec Hamilton. Mais c'est la première année depuis 2010 qu'il y a trois pilotes qui se battent pour le championnat à la dernière course de l'année. Donc, ça risque d'être assez serré. C'est un circuit qui peut avoir beaucoup d'action, beaucoup de dépassements aussi. Puis, il y a deux pilotes de McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, qui se battent pour le championnat, qui sont chez McLaren, puis un pilote de Red Bull, Max Verstappen.
C'est une surprise de voir que c'est pas Max Verstappen qui va gagner cette année, ou ça avait été quand même serré l'année passée aussi avec Norris, puis on savait que ça allait pouvoir se jouer quand même jusqu'à la fin.
Un peu une surprise, oui. Là, ils ont eu comme un milieu de saison assez compliqué, puis ils ont perdu une centaine de points. Là. Donc, je pense que tout le monde était un peu surpris, mais en même temps, ils sont comme revenus de, je pense que c'était 104 points. Ils sont rendus à 12 points en dernière course. Moi, je pense qu'il y a une très bonne chance de gagner en fin de semaine, mais ça va être quand même difficile parce qu'ils se battent contre deux voitures de la même équipe, donc eux autres peuvent comme jouer un peu ensemble. Là, ça, parce que ça, lui est vraiment tout seul.
Ça peut vraiment faire une différence, ça, quand tu passes ça. Quand tu regardes le classement, t'as Norris premier, Verstappen est deuxième, Piastri troisième. Norris et Piastri sont avec McLaren. Red Bull est affilié à Max Verstappen. Ça peut vraiment faire une différence, ça, dans une course, le jeu d'équipe entre deux voitures d'une même écurie?
Premièrement, la première option qui peut arriver, là, c'est que Norris, si Verstappen gagne, doit terminer quatrième. Mais si, ou quatrième ou troisième. Mais si Piastri est en avant de lui, évidemment, ils vont changer de position en fin de course. Là.
C'est ça.
Donc, c'est un peu le désavantage que Verstappen a. Puis son coéquipier cette année, ça fonctionne vraiment pas. Là. Il y a de la misère à être dans le top 15. Donc, ça va être assez difficile pour lui. Mais remarque, c'est dans les trois, c'est le pilote qui a le plus d'expérience. Il a gagné les quatre derniers championnats, puis il y a comme une pression de moins que les deux ont sur les épaules.
Je regarde le reste du classement. Y a-t-il des grosses déceptions cette année? Je vois que Lewis Hamilton est sixième. Ça, est-ce qu'on le voyait pas mal dans ces eaux-là à l'âge où il est rendu, ou on pensait qu'il pouvait encore se battre peut-être pour le top 3?
Non, je pense que c'est probablement la plus grosse déception cette année, c'est Hamilton. C'est sa première année chez Ferrari. Évidemment, c'est le pilote avec Michael Schumacher qui a le plus de championnats. Donc, tout le monde s'attendait qu'il ramène Ferrari à se battre au championnat cette année, mais ça n'a vraiment pas été le cas. Là.
Pourquoi Red Bull, t'as Max Verstappen qui est aussi haut, puis après ça, t'as, tu sais, si tu descends 15e avec Tsunoda qui est aussi bas, qu'est-ce qu'il fait? C'est-tu là que tu vois à quel point Verstappen fait des choses extraordinaires avec une voiture qui est peut-être pas si extraordinaire, ou c'est juste que Tsunoda, il suit pas pendant toute la game?
Je pense que c'est un peu des deux, mais je pense qu'on a vraiment... Verstappen, c'est le talent d'une génération. Là. En tant que pilote, on n'aime pas dire ça parce qu'on pense tout qu'on peut battre tout le monde, mais Verstappen, c'est vraiment un talent exceptionnel. Puis surtout en milieu de saison, où Red Bull avait beaucoup de la difficulté, lui a réussi quand même à faire des podiums et à continuer de faire beaucoup de points. Mais évidemment, Tsunoda est comme arrivé en début de saison chez Red Bull, mais Red Bull change beaucoup de... le deuxième pilote souvent, parce qu'ils sont pas capables de suivre Verstappen, puis ils essayent justement là, de trouver quelqu'un qui peut l'épauler un peu. Là.
À quel point la voiture est importante? T'sais, c'est niaiseux comme question, mais le fan de F1 qui veut commencer à suivre ça doit se dire ben les chars doivent être à peu près tous pareils, fait que c'est le pilote qui compte, mais la réalité, c'est que c'est pas ça. T'as des écuries qui peuvent donner des voitures à leurs pilotes beaucoup plus performantes. Comment ça fonctionne?
Je pense qu'on voit beaucoup moins que dans le passé des écuries qui ont une voiture sur deux qui est très performante, mais ça va beaucoup par manufacturier. Puis je pense que le seul qui fait vraiment une grosse différence cette année, c'est Verstappen, justement. Mais sinon, je vous dirais que malheureusement, en course automobile en général, mais surtout en Formule 1, c'est probablement 70-80% de la voiture qui fait la différence par rapport au pilote.
Y a-t-il des belles surprises cette année? On parlait de Lewis Hamilton au sixième rang avec Ferrari, qui est quand même une déception. Oscar Piastri, on le voyait-tu aussi haut? Y en a-tu des gars qui sont plus hauts que ce qu'on voyait avec nos prévisions?
Ben, un qui s'est bien démarqué, c'est le nouveau chez Mercedes qui a pris la place de Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, qui a juste 18 ans.
OK.
Première année en Formule 1.
Septième rang,
ouais, présentement. Oui, septième rang. Il y a eu une période de la saison qui était plus difficile, mais à 18 ans, remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes à sa première année en F1, c'était assez... c'était une grosse place à prendre. Puis souvent, les jeunes commencent dans des plus petites équipes. Eux, ils l'ont fait commencer directement. Mercedes l'épaulait depuis qu'il est tout jeune. Puis le faire commencer directement dans l'équipe principale Mercedes, c'était assez un gros défi pour lui, mais il s'en tire super bien.
Est-ce qu'on s'attend à des gros changements pour la saison prochaine? T'sais, je sais que des fois, puis je sais pas si c'est le cas cette année, mais il y a comme des gros changements apportés dans les règlements, dans les voitures, tout ça qui fait que le changement peut complètement venir tout changer. Là, est-ce que c'est ça va être comme ça pour l'an prochain ou on reste à peu près dans les mêmes règles?
C'est une bonne question. L'année prochaine, en fait, c'est l'année, je pense, dans l'histoire de la F1, qu'il y a plus de changements avec les okay. règles des voitures. Donc, on tombe sur des voitures un peu plus petites. Les moteurs changent complètement aussi. Donc, l'année prochaine, on repart vraiment à zéro. Là, parce que souvent, les règlements restent pour environ 5 ans. Là. Donc, à la fin de cycle de règlement, comme on a présentement, tout le monde est un peu saturé dans le développement des autos. Là, là tout le monde recommence vraiment à zéro.
C'est pour ça qu'on les change, pour permettre aux écuries de repartir avec des nouvelles technologies puis donner plus d'impact justement à l'écurie puis à la voiture.
C'est une des raisons. Deuxième raison, c'est l'évolution des technologies dans l'automobile en général. Donc, l'année prochaine, les moteurs vont être 50 % hybrides puis 50 % sur un moteur atmosphérique. Donc, ça va être assez compliqué pour les manufacturiers. Il y a Audi qui revient à F1 justement à cause de ça, puis Ford aussi. Okay. Donc, le but, c'est d'attirer des nouveaux manufacturiers aussi avec l'électrification. Donc.
Mick, ta prédiction pour dimanche à Abu Dhabi?
Ben, moi, j'aimerais bien que Verstappen réussisse à gagner un cinquième titre. Ça va être assez difficile pour lui, mais s'il y a quelqu'un qui est capable de le faire, je pense que c'est lui, mais ça va y prendre un peu de chance.
Michael Grenier, pilote automobile, un gros merci. Tu repasses quand tu veux.
Yes, merci à toi.
Dans les prochaines minutes, Mathias Turcotte vient faire son tour. Il était à la conférence de presse ce matin du RTC qui présentait son budget, un changement de stratégie, disons-le comme ça, pour les prochaines années. Et on va aussi continuer de suivre ce qui se passe à l'Assemblée nationale parce que ça brasse. Écoutez le Point de Max, il est 10h31. Le Point de Max.
Bon, mon rendez-vous est encore annulé. Ah, excusez, mon chum, il a oublié ses clés. Il est embarré dehors. Voyons, ça arrête pas. C'est quoi encore? Yes! C'est l'indice du jour Boulevard!
Téléchargez la nouvelle application Boulevard et activez les notifications. Restez à l'affût, parce que vous allez recevoir des indices directement sur votre téléphone. Entrez-les au blvd.fr.